Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
Vous avez peut-être vu passer ces dernières semaines une pétition concernant l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Une pétition qui ne serait pas comme les autres parce que celle-ci pourrait avoir un vrai impact. Ça vous a peut-être paru lointain ou complexe. Eh bien cet épisode est là pour creuser le sujet, expliquer les enjeux qui entourent cette allocation avec des personnes qui ont créé un collectif dédié à la question Objectif Autonomie. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Ariana. Bonjour Ariana.
Bonjour.
Lulu, salut.
Bonjour.
Et Citron.
Bonjour.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Activiste. On va rentrer dans le vif du sujet. Bien qu'on ait déjà un peu abordé le sujet dans un épisode précédent avec les dévalideuses, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'AAH ? C'est quoi ?
Alors l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est une allocation qui est destinée à toute personne qui va avoir une restriction substantielle ou totale dans sa capacité à travailler et donc à percevoir des ressources par elle-même. Et donc elle va se substituer à ces ressources qui sont d'habitude obtenues par le travail. Et donc comme c'est un minimum social, il s'agit donc d'une aide qui va voir son calcul établi sur les revenus des couples. Donc soit la personne est seule et le calcul se fait sur son revenu à elle, soit elle est en couple et à ce moment-là on prend les revenus des deux partenaires pour savoir établir quel sera le montant total.
Et alors, plus précisément, est-ce qu'on peut parler justement de ce montant qui évolue justement selon les revenus, etc. Est-ce qu'on peut détailler un peu sur quelle espèce de grille ça suit, quoi ?
Le calcul est assez compliqué de l'AAH. C'est un calcul qui est fait par la CAF. Et son maximum, quand on ne perçoit aucun autre revenu et que notre conjoint ou conjointe ne perçoit aucun autre revenu, est d'environ 902 euros. Donc ensuite, il est dégressif. En fonction des revenus que l'on perçoit. Et il me semble que le total ne peut pas dépasser un SMIC. Sachant que pour être considéré comme en couple par la CAF, il n'y a pas besoin d'être marié ou pacsé, mais de vivre sous le même toit et d'être visuellement en couple.
Sachant qu'il y a régulièrement des contrôles et que parfois, juste parce que la CAF considère qu'on est en couple, même si on ne l'est pas, on s'est quand même sucré notre âge. Notamment il faut des trucs très précis en termes d'administratif pour ne pas être considéré comme en couple. Si on souhaite faire une colocation, il faut vraiment des bails séparés, il faut que les courses ne soient pas partagées, il faut qu'il y ait vraiment des frais très séparés en fait, avec des preuves de facture à l'appui.
Parce que sinon vous risquez d'être considéré comme en couple avec votre colocataire et donc de voir votre allocation en fait calculée sur la base des revenus du colocataire ou de la colocataire.
Voilà, ça peut arriver parce que c'est très flou et que du coup comme la notion de couple par la CAF est donc comme expliquait Citron, il y a beaucoup de critères, c'est difficilement défini, etc. Ça dépend un peu des CAF, des contrôles et c'est un risque une menace qui existe.
Tout en rappelant aussi que les contrôleurs CAF sont payés à leur action, selon les actions qu'ils mènent. Et donc, révéler une fraude, c'est aussi percevoir une rémunération. Et ça, ce sont des actions qui ont déjà été pointées du doigt par certaines personnes. Et j'en discutais d'ailleurs avec Odile Morin assez récemment, qui est la présidente de l'association Handisocial, qui a accompagné comme ça une femme dont le couple n'était pas établi puisqu'il s'agissait d'une relation qui allait de la mise en couple à la séparation, etc. Rien de stable, et d'ailleurs des logements séparés. Quand bien même la CAF insistait pour faire statuer la notion de couple sur ces deux personnes, et donc il a fallu quand même batailler pour retirer cette mise en statut très arbitraire. C'est quelque chose qui est établi par les contrôleurs dans l'intimité des foyers, et c'est basé sur peu de preuves, quoi.
Ouais, ça fait limite atteinte à la vie privée, en fait. On va en reparler. Je voudrais juste être bien claire. Donc ça veut dire que si on est une personne seule qui n'a pas du tout de revenus, on touche environ 902 euros. Ensuite, si on est en couple, à partir de quel revenu ça commence à décroître ou c'est même supprimé?
Pour toutes ces questions déjà, concernant le calcul de l'AAH, nous avons notre ami Sandro Swartfire qui a fait un article très 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 étayé sur son blog qui s'appelle « Les maths de l'AAH » pour essayer de rappeler un petit peu toute la complexité de ce calcul qui est basé à la fois sur les revenus du couple mais aussi s'il y a des enfants ou pas à charge. Et donc la première chose, donc le premier montant que l'on va avoir, dont le montant plafond du couple, qui est donc le premier montant quand on n'a pas d'enfant, se situe à 1633 euros.
Donc ça, c'est censé suffire pour deux personnes.
Exactement. C'est à partir de ce montant-là, alors ça, je vais vérifier. Je te laisse, Lulu, si tu souhaites poursuivre.
Les enfants, c'est aussi très compliqué parce qu'au-delà de 20 ans, on n'est plus considéré comme sur les revenus du foyer. Et que le handicap, il peut être héréditaire. C'est mon cas, par exemple. Et bien dans ces cas-là, il peut y avoir des enfants qui vont être à charge au-delà de 20 ans et qui ne seront pas compris dans le calcul de l'AAH.
Oui, donc en fait, concrètement, on est déjà de base sur un niveau de rémunération en fait, qui est vraiment très faible. Comment on fait pour vivre avec 900 euros par mois quand on a en plus des frais, j'imagine, qui peuvent être liés à des soins, à des équipements qui doivent être adaptés?
Là, on revient sur les arguments qu'ont pu donner les membres du gouvernement, notamment Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, sur pourquoi elle est contre la proposition de loi qui nous arrangerait sur la déconjugalisation de l'AAH. Du coup, les arguments de plusieurs députés, c'est de dire vous avez la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui peut amortir ces frais-là. Sauf qu'en fait, c'est très difficile à avoir. Pour une personne sur 8, une personne handicapée sur 8 qui est handicapée et qui reçoit la AAH, il n'y a que 1/5 de ces personnes qui arrivent à percevoir la PCH. Donc c'est très peu. Moi, j'avais essayé de la demander parce que j'avais des frais de psy de 135 euros par mois. On me l'a refusé parce que, selon la MDPH qui a géré mon dossier, c'était pas des frais suffisants, en fait. J'avais pas besoin de la PCH. Sauf que sur 900 euros, moi, du coup, je gagne moins avec la AAH parce que j'ai d'autres revenus. Juste, ça fait une perte de plus d'un dixième de la AAH, quoi. C'est énorme. Donc, si on enlève les frais de psy et le loyer, déjà, il me reste plus beaucoup de sous. Donc il y a ces solutions là, mais elles sont vraiment très largement insuffisantes, et du coup il y a beaucoup de personnes handicapées qui se retrouvent à demander de l'argent à leurs proches ou à faire des crowdfunding sur les réseaux sociaux, des trucs qui sont pas normales, quoi.
On a souvent, si je peux compléter sur ça, on a souvent l'image qu'avec la sécurité sociale en France, les frais médicaux sont remboursés. Sauf que le handicap, c'est pas uniquement des frais qui sont considérés comme médicaux, c'est beaucoup de frais qui interviennent au quotidien auxquels on pense pas forcément. Par exemple, ça peut être avoir un régime alimentaire spécifique qui va coûter plus cher qu'un régime alimentaire, disons, classique. Ça va être avoir besoin de matériel de bureautique un peu spécifique, ergonomique, de logiciels de prise de parole, etc. Certaines choses qui peuvent être financées par d'autres organismes comme la GFIP quand on travaille, mais ça aussi c'est très compliqué à obtenir. Et du coup, c'est beaucoup beaucoup de frais qui ne rentrent dans aucune disons, compensation autre que l'AAH. Donc 900 euros, c'est vrai que c'est peu.
Oui, parce que déjà, 900 euros pour, entre guillemets, une personne valide qui peut exercer un métier ou chercher d'autres activités, bah, en fait, c'est peu. Il y a même certaines régions où ça va être très difficile de trouver de quoi payer à la fois un loyer, des factures et de quoi se nourrir avec ce montant-là. Donc oui, on imagine effectivement qu'avec tous les frais que vous avez mentionnés, c'est pratiquement impossible. Citron, tu as utilisé une expression tout à l'heure, tu as dit la déconjugalisation. Je voudrais bien qu'on décortique un petit peu en fait ce que ça veut dire vraiment précisément, le fait de déconjugaliser l'AAH.
En vrai, c'est un mot qui a été un peu inventé dans le militantisme, parce que je l'ai utilisé dans la lettre que j'ai écrite aux députés, et à chaque fois ils le mettent entre guillemets, ça me fait rire. Mais en gros, c'est la version plus longue, c'est désolidariser le calcul de l'AAH des revenus du conjoint. Donc ça veut dire concrètement ne plus prendre en compte les revenus de nos conjoints dans le calcul de notre allocation. Quoi.
Si je me trompe pas, il me semble qu'on est passé à ce terme-là alors qu'on utilisait désolidarisation plutôt au début, parce que la désolidarisation, elle sous-entend que ça concernerait aussi les enfants, par exemple, alors qu'on parle bien uniquement des revenus du couple et donc la déconjugalisation.
Et alors moi, je voudrais aborder un peu justement les impacts spécifiques de cette conjugalisation. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune autonomie financière pour les personnes concernées qui sont en couple, quoi.
Aucune autonomie financière, c'est une dynamique qui existe à la fois dans les couples handicapés valides et dans les couples handicapés. Et je pense qu'il y a des problématiques qui sont peut-être différentes. Ça veut dire, et c'est surtout ça dont on parle en ce moment, que ça peut générer beaucoup de violence au sein du couple et que c'est très difficile de sortir de ces violences en n'ayant pas de revenus propres et donc en ne pouvant pas prendre un logement, ce qui est nécessaire pour pouvoir être de nouveau considéré comme célibataire et donc bénéficier de nouveau d'aide sociale. Et ça crée des situations où des personnes sont en danger quotidiennement parce qu'elles ne peuvent pas partir de leur foyer.
Tu dis des situations différentes entre un couple valide handicapé ou un couple handicapé-handicapé. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ?
Je peux donner mon exemple propre. Donc, je suis en couple avec une personne handicapée. Je suis moi-même handicapée. Et je pense que les craintes sont légèrement différentes parce que les nôtres... Évidemment, la violence, elle peut exister aussi dans un couple handicapé-handicapé. Mais moi, les craintes auxquelles je fais face aujourd'hui, c'est surtout mes variations de travail, sachant qu'on a très rarement un travail stable quand on est handicapé, parce qu'on va avoir des moments où on peut travailler, des moments où c'est plus difficile, des conditions de travail qui évoluent, etc. Donc tout ça, ça va influencer la qualité de vie, la qualité de soins et les revenus de mon conjoint également. Ça, c'est quelque chose qui fait que... on s'engage, quand on s'engage à vivre en couple, on s'engage en fait dans 10 fois plus que quand des personnes valides s'engagent à vivre en couple.
Alors, dans mon cas, pour préciser, je ne touche pas l'AAH parce que je travaille. Aujourd'hui, je travaille en temps partiel à 90%. Je suis en couple avec une personne valide. Néanmoins, j'ai une situation, on va dire j'ai une santé qui, pour le moment, décline un petit peu et commence à me faire entrevoir la possibilité d'une perte déjà d'un taux horaire, voire d'une augmentation de mon incapacité au travail. À côté de ça, j'ai une sœur qui, elle, est célibataire, mais qui, par contre, touche l'AAH et va, à un moment donné, devoir se poser la question de sa vie, de son projet de vie, de qu'est-ce qu'elle va envisager dans l'avenir, de où elle se voit une fois que sa situation... que son état de santé sera amélioré ou sera stabilisé. Et donc, forcément, moi, la question, elle est double. Elle est à la fois pour ma sœur célibataire qui a très certainement envie aussi de construire sa vie, de la manière qu'elle l'entend, bien évidemment. Mais il y a aussi moi qui suis en couple déjà et qui était un tout petit peu valide à l'époque quand j'ai rencontré mon copain actuel et qui ne voit d'ailleurs qu'une dégradation de mon état de santé, il y a cette espèce de promesse ratée de devoir assumer un état... c'est comme si Depuis le début, je m'engageais sur une relation d'égal à égal pour au final lui offrir une relation qui risque d'être biaisée. Et ce qui est très bizarre en plus dans ma situation, c'est que j'ai l'impression que cette situation elle est biaisée à mon avantage. Parce que c'est moi qui ne vais peut-être moins travailler, percevoir moins de revenus et pour autant bénéficier de la situation de mon copain. Et encore, la question n'est même pas celle de la possibilité qu'il soit conjoint. Parce que pour le moment, nous faisons valoir le fait que nous ne sommes pas en couple sur les critères de la CAF, car nous ne les remplissons pas. Si demain, nous remplissons ces critères, ma situation va changer. Et si demain, ma santé change, alors c'est tout ce qu'on est en train de construire, notre logement, nos choix de vie qui vont être bouleversés. Et bien évidemment, moi, dans ma tête, c'est... je sais que derrière, c'est son revenu qui va nous porter, qui va me porter et dont je vais dépendre. Et bien évidemment que ce sont des questions qui me font très très peur et auxquelles, pour le moment, je ne réfléchis pas trop parce que je n'y suis pas confrontée encore aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça que je me bats.
Oui, je partage un peu ces craintes-là. Moi, j'ai jamais tenté de travailler, entre guillemets. J'ai fait deux burn-out pendant ma scolarité et ça a été assez difficile de m'en remettre. Et je sens beaucoup de pression à travailler et je sais que dans tous les cas, je ne serais pas en capacité de faire un temps plein. C'est vraiment quelque chose qui ne m'est pas accessible. Et du coup, l'autre solution qui pouvait s'offrir à moi, c'était de vivre avec la hache uniquement et potentiellement de vivre en colocation ou en couple, même avec plein de personnes différentes, dans un endroit pas trop cher. Pourquoi pas, ça aurait été un truc intéressant. Mais encore une fois, c'est des choses qui influent nos choix de vie, en fait, où on n'a pas vraiment le choix, quelque part. C'est pareil, se dire on va se marier ou on va faire des enfants, c'est quelque chose, vraiment, on y réfléchit. Enfin, c'est pas vivable en fait. C'est quelque chose qu'on va imposer aux gens autour de nous, même aux enfants en question. On sait même pas si la MDPH va accepter de renouveler nos droits. On sait même pas. Enfin, c'est vraiment un truc très incertain en fait qui touche à la déconjugalisation et c'est sur quoi on travaille en ce moment. Mais c'est un truc très global de. Les gens extérieurs à nous ont beaucoup plus de choix sur nos vies que nous-mêmes, en fait. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Psychologiquement, ouais, me dire que je dépende de quelqu'un, même si tout va bien, si cette personne est très bienveillante, qu'elle ne me fait jamais de reproches, moi, je vais me dire, est-ce que je suis sûr de vouloir acheter tel truc qui me fait plaisir, alors que je sais que c'est son argent, en fait. C'est à moi de toucher le jackpot et de marier quelqu'un de vraiment très riche qui s'en fout. Mais clairement, c'est...
Mais même. Moi, je m'occupe de ma sœur maintenant depuis 6 ans, avant qu'elle bénéficie de l'AH. C'est un poids, enfin, c'est une pression psychologique pour elle. C'est une culpabilité de devoir... Enfin, comment dire, de devoir vivre sous mon toit, de devoir faire, même quand elle sait que de toute façon je vais payer l'alimentation, elle est là à vérifier les prix, s'assurer qu'elle ne coûte pas trop cher. Il y a vraiment cette idée, vous savez, quand on parle des personnes assistées en France, qui, parce qu'elles touchent des aides, ça rentre réellement dans le cerveau. C'est vraiment des termes, des qualificatifs qui s'intègrent dans nos cheminements de pensée, dans nos mécanismes, à tel point que ça brise des personnes qui se sentent inutiles à la société, qui se sentent inutiles à leur propre famille, qui se sentent être des poids. Enfin, cette société fait peser le handicap, le poids, la responsabilité du handicap sur l'individu. N'allons pas dire que c'est la société aujourd'hui qui accompagne les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est moi, c'est mon copain aussi, qui nous occupons de ma sœur. Et malheureusement, ça a des conséquences. Aujourd'hui, ma sœur est hospitalisée depuis le mois donc, de février parce qu'elle a fait une bêtise, parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Parce que ni Pôle emploi n'était là pour l'aider, ni la CAF, ni les MDPH pour reconnaître son handicap, ni les médecins pour reconnaître ses souffrances au quotidien. Personne, sauf moi. Et elle était arrivée à un point où elle s'était dit « Peut-être que m'ôter la vie, ce serait rendre la vie de ma sœur meilleure. » c'est aussi pour ça que je me suis lancée aussi dans cette lutte. Vous n'êtes pas obligé de garder là, ce que je suis en train de dire, là, c'est pour ça que. Parce que forcément, là, il y a l'émotion qui parle et que je me répète. Mais ouais, c'est, quand j'ai cette image de ma sœur, bien évidemment, je me dis que moi, mais je suis tellement pas prête. Je préfère encore jouer la valide tant que je le peux, tant que ma santé me le permet pour gagner mon propre revenu. Bah oui.
À ce sujet-là, tout à l'heure, Citron a parlé du fait que la hache, on ne sait pas pour combien... Enfin, elle nous est accordée seulement pour un temps. Et donc, quand on arrive à l'obtenir, parce que déjà, c'est difficile à obtenir, mais ça, c'est tout un autre sujet, c'est pas une garantie à vie, c'est pas quelque chose avec lequel on peut faire des projets. Et ça veut dire qu'on est toujours obligé de penser à l'éventualité qui pèse très lourd de si ça cesse. Au sujet des autres aides, elles sont aussi tellement difficiles à obtenir, notamment la PCH, donc l'aide humaine, qui peut permettre d'avoir de l'aide pour faire à manger, pour ce genre de choses, que, en fait, nos aides, elles sont souvent humaines, mais pas financées. Pour prendre mon exemple du coup personnel, mon conjoint, il est handicapé, c'est aussi lui qui m'aide, c'est aussi moi qui l'aide. Et donc, du coup, ce fait d'avoir une difficulté à obtenir des aides, ce fait de ne pas pouvoir... Enfin, tout ça, c'est aussi des choses qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépendance et qui font qu'on est encore très loin de notre autonomie. L'AH, la déconjugalisation de l'AH, c'est une étape nécessaire à l'obtention de notre autonomie. Elle n'est pas... Enfin, ce n'est pas la finalité, il y a encore beaucoup de choses, mais voilà, toutes ces aides, elles sont tellement difficiles à obtenir, elles sont tellement rares, que ça nous met dans des situations qui peuvent être très graves.
C'est d'autant plus difficile ce climat-là, qu'en ce moment, politiquement, c'est difficile pour les personnes handicapées. On parle de nous que pour les projets, les débats sur l'euthanasie, ce qui est assez terrible, hein, on va pas se mentir. Au-delà de ce qu'on pense de ça, que ce soit la première chose auquel on pense quand on pense aux personnes handicapées, c'est assez lourd à porter. Et tous les éléments de langage autour de cette proposition de loi, ça porte là-dessus. C'est solidarité familiale. J'avais vu un tweet de Sophie Cluzel, ça m'avait fait bondir. Là, c'était vraiment du vocabulaire de assistance, secours, soutien. Mais en fait... En soi, on n'a pas de problème à vivre avec nos handicaps. Le souci, c'est que le travail, c'est pas forcément accessible pour nous. Parfois, c'est même pas envisageable de par la nature de nos handicaps, certes, mais nos vies, elles sont très bien. c'est vraiment tout le validisme de la société derrière qui fait que on a du mal à s'envisager indépendant financièrement et du coup, du mal à se considérer comme des adultes aussi. Moi, je sais que j'ai vraiment... j'ai 26 ans. j'ai toujours l'impression d'être le gamin de ma famille. C'est le moment où tu vois tous tes proches faire des projets de mariage, d'achat, s'ils ont les moyens. Peut-être faire des voyages, des choses comme ça. Bah, c'est des choses où il n'y a pas accès, en fait.
J'allais y venir, justement, parce que là, à travers tous vos témoignages, on voit les différentes formes que peuvent prendre en fait ce qui se manifeste comme une véritable précarité, une dépendance. Et donc tout ça tourne autour effectivement de la notion d'autonomie dont vous avez parlé. C'est quelque chose de central en plus dans les combats anti-validisme parce que justement, en tant que personne handicapée, vous êtes souvent infantilisée, ramenée à cette nécessité d'accompagnement, quoi.
Je pense que Citron a touché le sujet tout à l'heure avec l'exemple du langage qui est utilisé autour de la proposition de l'AH. Si on n'avait pas un discours permanent qui est de dire que nos vies ne valent rien, que nous sommes des sujets de médecine, qu'il faut nous guérir, etc., on ne se poserait pas cette question-là de notre autonomie et de notre droit à vivre, en fait. De notre droit à vivre indépendamment, de notre droit à être autre chose qu'une charge. Donc c'est tout un climat et c'est toute une conception du handicap extrêmement validiste qui fait que on est toujours dans une situation où l'AH est conjugalisée et pas seulement en France.
La question de la solidarité familiale, elle pose aussi question parce que on l'a quand même vu aujourd'hui avec nos dernières luttes féministes que ce qui se passe dans les foyers peut être très grave. Ce qui s'y passe, ça touche à la fois les femmes, les conjointes, Ça touche aussi les enfants. On en parle un peu moins, mais on essaye maintenant quand même de porter un peu cette parole de ces individus à charge d'adultes. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que justement, les personnes handicapées, ce sont aussi des personnes qu'on peut déclarer à charge. Il y a ce lien très étroit qu'on a entre l'enfant qui ne peut pas être autonome, subvenir lui-même à ses propres besoins, et la personne handicapée qui serait un espèce d'adulte en échec, cette espèce d'enfant qui n'a jamais atteint l'âge adulte parce qu'il ne peut pas, selon les pensées validistes, subvenir à ses propres besoins. Et je crois que cette solidarité familiale, elle doit être réellement questionnée en tant qu'espace aussi politique où il se passe des choses, où une organisation doit avoir lieu pour que la famille fonctionne. Et donc, les questions de pouvoir existent, ou les questions de domination existent, mais ont peut-être le droit de se cacher sous prétexte de vie privée. On parle aussi, alors moi je me posais cette question des violences et des oppressions, on parle donc des oppressions de manière générale, sexistes, racistes, LGBTophobes, etc. Ce sont des oppressions que nous connaissons. Pour le validisme, je me suis demandé de quoi il pouvait s'agir alors comme type de violence. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un terme qui existe, qui s'appelle la maltraitance, qui est justement la violence sur personne vulnérable. Et j'entends bien que dans un regard juridique, nous avons ce statut de personne vulnérable du fait de nos conditions, et que ça, en soi, c'est une circonstance aggravante. Néanmoins, cette violence n'est du coup perçue, à travers le prisme de la maltraitance, n'est perçue que comme découlant d'une domination, de cette perception que l'on a des personnes handicapées comme étant, non pas des adultes, mais voilà, des enfants. La maltraitance, on en parle aussi pour les personnes âgées. Et il y a un vrai lien à faire aussi entre les personnes handicapées et les personnes âgées, puisqu'il y a un même vécu qui touche très souvent la santé, et donc la capacité à agir par soi-même et à atteindre des choses par soi-même. Et je crois que tant qu'on n'aura pas questionné la place de l'enfant, la place de la personne âgée, on aura du mal à questionner la place de la personne handicapée, parce que ce sont trois rôles, trois types de personnes, trois statuts sur lesquels on n'a pas trop envie d'ouvrir les yeux, on n'a pas trop envie d'aller voir ce qui s'y passe, et pourtant on parle de trois vulnérabilités qui ont les mêmes droits que tout un chacun.
C'est très complet déjà les explications que vous donnez, donc merci beaucoup, parce que je pense que c'est des réalités dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas confronté soi-même ou dans son entourage proche au handicap. Concrètement, pour revenir au sujet de l'AAH, j'aimerais que vous expliquiez ce que vous souhaitez peut-être comme nouveau mode de calcul quelque part. On va revenir ensuite sur le processus, sur où on en est en termes législatifs, voilà. Mais vous, aujourd'hui, idéalement, qu'est-ce que vous attendriez comme nouvelle disposition en la matière ?
Déjà, la proposition de loi actuelle, elle me semble très bien. J'avais assisté du coup au débat au Sénat, et les amendements qui ont été faits sont plutôt corrects. Ils n'ont pas tous été acceptés, mais ce serait déjà une grosse avancée.
Est-ce que tu peux revenir sur ce qui est déjà dans la loi, du coup, et qui est déjà bien, parce que je pense pas que...
Déjà, ce serait quelque part considérer l'AAH comme des revenus de travail, en gros. D'avoir un statut un peu similaire, du coup, c'est ce qui est demandé avec la déconjugalisation, c'est de dire, c'est nos revenus, c'est mon handicap, c'est mon AAH, c'est le slogan de Act Up Paris. On ne veut pas que ce soit calculé en fonction de reste de ce qui est gagné par notre foyer, quoi. Ça, c'est pas cohérent. Donc c'est ça qui est prévu par la loi. Et les amendements, il y a des détails, je ne suis pas sûr de pouvoir les ressortir, mais il y avait des personnes qui étaient éventuellement perdantes dans ce nouveau mode de calcul. Elles n'étaient pas forcément très nombreuses, mais elles existaient quand même. Et du coup, la personne qui était chargée d'amender la loi a dit « Bon, bah, on va faire en sorte qu'elles aient une échéance de 10 ans où elles peuvent s'adapter petit à petit à ce nouveau mode de calcul et puissent avoir le temps de trouver éventuellement d'autres solutions. » Comme ça, il n'y aura pas vraiment de perdants, en fait, dans cette loi. Il y aura quelque chose d'assez progressif, même pour les quelques personnes pour qui c'est un problème, quoi.
Donc concrètement, là, on parle d'une proposition qui est déjà devant le Parlement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours? Parce que je crois que d'abord, elle a été examinée en 2020 par l'Assemblée nationale. Ensuite, donc, on l'a dit, il y a eu cette pétition pour soumettre cette proposition, pour contraindre quelque part le Sénat au moins à examiner la mise à l'agenda de la loi. Donc je veux bien que vous nous refassiez un petit peu l'échéance et surtout où est-ce qu'on en est actuellement.
Effectivement, c'était déjà passé en première lecture à l'Assemblée nationale en 2020, avec une salle pas très pleine et honnêtement peut-être un peu par hasard. Suite à ça, Objectif Autonomie, on s'est emparé d'une pétition déjà existante qu'on a trouvée sur le site du Sénat. Et donc pour effectivement que le Sénat mette cette proposition de loi à son agenda. Donc elle a été discutée le 9 mars. Elle a été amendée d'une manière que nous on trouve beaucoup mieux que le projet de loi d'origine. Et là en fait ce qui se passe c'est que il y a une nouvelle pétition qui circule donc pour sa lecture à l'Assemblée nationale. Les députés communistes l'ont mise à l'ordre du jour pour le 17 juin. Nous, cette pétition, en fait, ce qu'on demande dans cette pétition, c'est que la loi soit adoptée telle quelle, sans retour en arrière sur certains points et voilà, sans amendement. Donc il y a cette pétition-là qui circule et aujourd'hui, notre enjeu, c'est ça, c'est le 17 juin.
Donc concrètement, si je reprends un peu tout ce que vous avez dit depuis le départ, plus ce point législatif, en fait, l'enjeu, c'est de faire évoluer les mentalités. Et en tout premier lieu, de faire évoluer la conception du handicap qu'ont les gens qui nous gouvernent, les élus. Et donc, pour vous aider, on fait quoi?
Bah déjà, je pense qu'on signe la pétition. Et après, on écrit à ces députés, si on peut leur écrire, si on peut leur téléphoner, on leur téléphone. Nous avons une liste de députés et il y a plusieurs propositions de mails qui circulent pour aider les personnes à écrire. Je ne sais pas s'il y a une description sur le podcast où on peut mettre peut-être...
Si, les bien liens. Sûr, on mettra les liens dans la description.
Voilà. Et je vais juste revenir sur les mentalités. Il y a quand même un point qu'il me semble qu'on n'a pas trop abordé, qui me semble quand même très important. Les mentalités du gouvernement sur cette proposition de loi. Le fait de parler de solidarité familiale, c'est quelque chose qui a aussi un enjeu de classe qui est énorme. Parce que moi, je vois par exemple que j'ai des parents qui peuvent m'aider, qui peuvent financer mes études, tout ça. Et du coup, j'ai le droit d'être handicapée, entre guillemets. Parce que ma solidarité familiale, elle existe, elle est là. La solidarité familiale, c'est pas une réalité pour tout le monde, pour des questions de revenus, pour des questions problèmes intrafamiliaux, etc. Et ça, c'est... Voilà, il y a aussi un enjeu militant au-delà de l'AAH. C'est cet enjeu-là qui est un enjeu de classe et qui est un enjeu d'égalité sociale plus largement.
Mais alors, qu'est-ce qui vous oppose, en fait, le gouvernement parce qu'il me semble, en gros, qu'il y a certains parlementaires donc, qui se sont emparés du texte, qui ont fait des améliorations qui vous conviennent actuellement. Donc il y a une frange des parlementaires globalement qui est de votre côté. Mais côté gouvernement, ça coince. Vous me dites si je me trompe. Mais il me semble que voilà, le gouvernement n'est pas favorable à ces évolutions. Après tout ce que vous venez de nous dire, c'est difficilement entendable, je trouve, de dire « c'est pas nécessaire, non ».
Bah, officiellement... leur principal argument, c'est de dire l'AAH, c'est un minima social. Si on commence à calculer l'AAH sans les revenus du conjoint, il faudra qu'on fasse ça pour absolument toutes les allocations, tous les minima. C'est pas possible. En gros, ce serait un budget énorme. Ce serait remettre en cause toutes nos lois. Enfin, vraiment, ils n'hésitent pas à aller beaucoup trop loin dans, dans l'exagération. Ouais, en fait, officieusement, c'est vraiment une question de budget, en fait. C'est quelque chose qu'ils considèrent trop cher à payer, en gros. Et c'est ça qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que on peut voir des gens autant de gauche ou de droite, ils disent, mais enfin, c'est une question humaine, en fait. Et même si les gens de droite disent ça, c'est que vraiment, ouais.
Ouais, en effet, il y a énormément d'arguments qui ont été opposés à la première version du projet de loi. Des arguments qui ont été pris en compte dans l'amendement du projet et qui du coup n'ont plus réellement ont permis sa modification et donc du coup ne tiennent plus aujourd'hui. Et en effet, les derniers arguments qui restent vont être ceux de vraiment essayer de solidariser l'AAH avec tous les minima sociaux, de vraiment dire que... Mais je pense que ça vient aussi d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'AAH et de ce qu'est le handicap vis-à-vis du travail aussi. Donc il y a d'abord ça, parce que c'est ce qui a déjà été dit, hein, que ça allait ouvrir la brèche vers la déconjugalisation pour les autres minima sociaux. Et en effet, l'argument budgétaire, comme on le sait, qui est très souvent abordé pour demander au moment où on souhaiterait voir un financement proposé, il faut que le demandeur du financement propose où trouver l'argent. Et donc on a eu des réponses par courrier, je crois, alors si je ne me trompe pas, sinon on coupe tout ça, mais nous avons eu une réponse pour Madame Aude Genot.
Pour Madame Aude Genot, il faut un tout petit peu de contexte.
En fait, Aude Genot est une femme handicapée qui a décidé de faire une grève de la faim pour qu'il y ait une décision du gouvernement de traiter au plus vite, qu'il y ait une décision pour que ça arrive de nouveau à l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'on craignait, c'est que le gouvernement mette de côté la proposition de loi jusqu'aux prochaines élections, en gros, qu'il se passe la la patate chaude, c'est à vous de gérer, on s'en fout. et du coup, elle avait essayé de faire pression là-dessus, et ça, quelques jours après que Marie-Georges Buffet a annoncé publiquement qu'elle utiliserait sa niche parlementaire pour traiter la question.
Niche parlementaire, juste encore un point de contexte. Donc niche parlementaire, c'est en fait les journées qui sont accordées aux partis d'opposition pour présenter leur texte de loi devant le Parlement. Et c'est des trucs assez spécifiques parce que généralement, en gros, un parti a une journée pour présenter ses textes. Il peut en avoir plusieurs, ça veut dire qu'il faut faire des choix. C'est des choses assez particulières pour faire adopter des textes.
Et du coup, le groupe Facebook s'est pas arrêté là, en gros, parce qu'il y a eu tout un soutien autour de cette femme. Maintenant, le groupe a 1000 personnes, 1000 membres, et ont décidé du coup de continuer sur cette lancée-là et d'envoyer massivement des courriers aux députés et partager les pétitions qui sont faites sur le site de l'Assemblée nationale. Et donc, régulièrement, les membres postent les réponses qui ont été reçues de la part des députés. Et il y en a des incroyables. Il y en a des très très vagues, mais il y en a qui sont précises et plutôt violentes. Et je pense que celle auxquelles pensait Ariana, c'est celle de Sereine Mauborgne, qui était vraiment farouchement contre, du coup, cette proposition de loi, et qui disait, si on fait ça... on va devoir augmenter énormément le coût du tabac et les Français ils vont vraiment apprécier les personnes handicapées après ça, hein, on peut l'assurer. C'était très lunaire.
Oui, parce que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut proposer une budgétisation de la proposition de loi. Et donc, du coup, ce serait le prix du tabac. Mais dans cette même lettre, elle disait aussi, elle répondait à la personne qui écrivait vous avez la PCH. On a déjà expliqué tout à l'heure que quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la MDPH et des aides du handicap, etc., la PCH, c'est limité. Voilà, donc c'était vraiment très très à côté de la plaque. Et c'était une députée LREM.
Bah merci pour ces précisions. On voit là finalement très précisément en fait comment des décisions politiques peuvent impacter la vie des gens en général, dans ce cas précis, la vie des personnes handicapées. Outre l'AAH, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qui vous viennent en tête pour illustrer l'impact des politiques publiques sur vos vies, en fait ?
En termes de handicap, ça n'a pas eu d'impact sur la mienne en particulier, mais il y en a eu plusieurs dernièrement, oui. Celle qui a fait le plus de bruit, je pense que c'est la loi Elan, qui est la loi qui a remis en cause l'obligation de rendre tous les nouveaux bâtiments accessibles à 100%. Et maintenant, le pourcentage est ridicule, quoi. Je crois que c'est 10%. Ça a été vraiment dur pour beaucoup de personnes handicapées, parce que c'est déjà très difficile de trouver des logements accessibles. Et là, ça voulait dire que tout le monde allait un peu se battre pour les avoir. Et du coup, aller rendre visite aux amis, aux parents, se déplacer en général, ça allait devenir tout de suite beaucoup plus difficile, en fait. C'était quelque chose de très concret, mais le gouvernement a décidé que c'était pas important, visiblement.
Nous avons eu aussi, le 1er décembre 2019, la suppression du complément de ressources, qui était qui entrait en complément de l'AAH, et donc encore une fois une aide qui a été simplement supprimée, une aide financière supprimée, et qui se voulait donc être remplacée par la majoration pour la vie autonome. Mais après, j'ai pas davantage d'infos sur exactement quelle va être financièrement, quelle va être la différence entre ces deux aides, et notamment aussi sur les conditions d'obtention. Si celle-ci change ou pas.
Moi, si je peux donner un exemple, ce serait... Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis encore en études. Donc, moi, à titre personnel, j'ai développé une situation de handicap. J'avais déjà des problèmes de santé, mais je suis devenue handicapée au cours de mes études et j'ai mis donc 2 ans à obtenir des aménagements dont on m'a dit que j'avais pas le droit, alors que j'y avais le droit. Et en fait, dans le supérieur, on est 1,6% de personnes handicapées, alors qu'on est 18 à 25% selon les estimations dans la population générale. Et donc du coup, les politiques concrètes qui ont une influence sur la vie des personnes handicapées, c'est tout ce qui va être aussi les politiques d'institutionnalisation des personnes handicapées, d'encouragement à scolariser les enfants dans des lieux fermés, de difficultés pour les parents à scolariser les enfants en milieu ordinaire, où ils vont rencontrer beaucoup d'obstacles, où il y a énormément de témoignages de parents qui expliquent qu'on leur a refusé, que leur enfant a eu une sortie scolaire, que leur enfant continue une scolarité normale, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui ont à voir avec les politiques publiques et qui font que l'accès aux études supérieures, c'est un énorme privilège pour les personnes handicapées, même avant le supérieur, c'est un énorme privilège. Et que c'est difficile aussi, je pense, de créer un savoir, de créer une culture, de créer plein de choses dont on a besoin en tant que communauté, quand on n'a pas du tout accès au premier lieu de socialisation qu'est l'école, et aussi aux études supérieures et tout ça, quoi.
Bah, merci pour vos exemples à tous les trois. Je voudrais parler un petit peu du collectif de Objectif Autonomie. Je ne sais pas si vous êtes des membres fondateurs, si vous l'avez rejoint ensuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du collectif ?
Donc, Objectif Autonomie, c'est un mouvement composé de personnes handicapées réunies pour demander et obtenir l'autonomie des personnes handicapées. Ce mouvement, alors en fait, il a émergé lors de la mobilisation sur les réseaux sociaux contre la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH, ou alors la déconjugalisation de l'AAH pour aller plus vite, en décembre 2020. Et cette mobilisation a été poussée par la diffusion massive de la pétition de Véronique Marie-Bernadette Tixier par la communauté Handi. Avec l'obtention des 100 000 signatures sur la pétition, nous nous sommes lancés dans la rédaction donc, d'une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Et cette rédaction a été faite en concertation avec plusieurs militants handicapés et associations, dont le CHLE, les Dévalideuses, le Stream pour notre autonomie, Comme des fous, Cléautiste et le collectif Méchants Handicapés. Et aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs aussi en contact avec Éric Michels, qui est le directeur de l'association Action Aide Handicap, et Odile Morin, dont on a parlé précédemment, présidente de l'association Handi Social. Ce mouvement, qui est issu des réseaux sociaux, a été créé par un petit groupe de personnes handicapées déjà mobilisées pour les luttes antivalidistes, qu'elles soient créatrices de contenu, artistes ou tout simplement militants sur les réseaux sociaux. La mobilisation s'est cristallisée autour d'un serveur Discord que l'on pouvait donc rejoindre au départ sur invitation parce que c'était quelque chose d'assez discret et ça n'avait pas vocation non plus, comment dire, à s'instaurer dans le temps, disons. Ça se voulait être une mobilisation vraiment liée à la première pétition sur le site du Sénat et non pas à une lutte antivalidiste. Et donc, elle avait été créée, si je ne m'abuse, par Mathieu de la chaîne Vivre Avec, Alistair Oudaillé de la chaîne H Paradoxae. Nous avions aussi la dessinatrice Frix, et c'est d'ailleurs elle qui m'a contactée dès le début, puisque ce qui s'est passé pendant cette mobilisation, c'est que plusieurs personnes de la communauté Andy souhaitaient agir vite. Il y a eu un espèce d'élan, à vouloir aider à faire progresser cette pétition. C'était en tout cas, dans mon cas, c'était la première fois que je voyais un tel élan sur une question du handicap. Et donc, on ne savait pas trop comment s'y prendre parce que nous n'étions pas forcément des militants. et on s'est tous retrouvés sur Discord. Il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres Discords qui se sont créés pour d'autres actions, d'autres travaux militants antivalidistes autour de cette question de la déconjugalisation. Et donc après, le objectif autonomie s'est constitué un petit peu comme un collectif, parce qu'il faut l'avouer, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis décembre, tous les jours. Nous avons essayé de créer des visuels, de contacter un maximum d'associations, de personnalités publiques, de personnalités politiques. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on insiste un petit peu sur le terme collectif, mais aussi mouvement, puisqu'il y a quelque chose de très d'impermanent dans ce collectif, où du fait de nos santé, du fait de nos situations personnelles, il peut y avoir des départs comme des arrivées, des mises sur pause de chacun et chacune d'entre nous pour permettre de continuer à faire vivre cette mobilisation.
Et du coup, si vous obtenez gain de cause, en quelque sorte, sur cette question précise, est-ce que vous savez déjà, est-ce que c'est déjà quelque chose qui est discuté, de continuer à faire entendre votre voix sur le thème de l'autonomie ou plus largement sur la question de l'antivalidisme, ou est-ce que vous visez vraiment juste à faire passer cette loi et voilà, c'est l'objectif principal, quoi.
Comme je le disais tout à l'heure, l'autonomie des personnes handicapées, la déconjugalisation de l'AAH, c'est une étape nécessaire, mais c'est loin d'être le bout. Donc en fait, je pense que ça va se faire aux sensibilités et aux envies de chacun, parce que voilà, objectif autonomie, on n'y est pas encore. Voilà, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans objectif autonomie, et qui est un objectif que l'on peut rejoindre et que vous pouvez rejoindre, et voilà, c'est que c'est une expérience militante qui pour moi est très différente de pas mal de cercles, parce qu'au niveau de l'accessibilité, de la bienveillance, de la prise en compte des possibilités de chacun et chacune, c'est très agréable quand on est militant, militante et handicapé. Et voilà, il n'y a pas vraiment de pression du bon militant qui doit être disponible tout le temps, faire des réunions jusqu'à 23h, etc. Même si nous, en tant qu'individus, on peut avoir du mal à respecter nos propres limites, le collectif respecte nos limites. Et donc voilà, je pense que c'est une expérience militante qui est très intéressante pour les personnes handicapées, mais aussi pour les personnes valides, parce que je pense que ces limites-là, elles sont importantes à prendre en compte pour tout le monde. Et je ne suis pas... médium, mais je pense que ça va très probablement continuer avec les personnes qui le souhaitent. Et comme l'a dit Ariana, avec la mouvance et le côté mouvement, voilà, chacun peut venir, repartir, revenir, etc., en fonction de ses disponibilités, de ses envies. Et ça m'étonnerait que le 17 juin, le mouvement s'effondre d'un coup.
Je suis assez d'accord. Je pense que ça va vraiment dépendre de qui va proposer une nouvelle initiative quand ce sera fini. C'est une possibilité si l'État décide que c'est non, que l'Assemblée vote non contre la loi. Bah, il y a des chances que le collectif s'organise pour qu'il y ait de nouveau des poussées, pour qu'il y ait des nouvelles propositions de loi qui aillent dans ce sens. Et j'espère que, qu'on n'aurait pas besoin de faire ça et qu'on pourra se concentrer sur d'autres combats. Mais ça va vraiment beaucoup dépendre, encore une fois, de ce qui va se passer dans le futur proche.
Et vous avez espoir, concrètement ? Vous partez plutôt avec l'impression que ça va marcher ou vous êtes vraiment dans l'incertitude complète ?
Je pense que ça va dépendre beaucoup des députés de La République En Marche, parce que du coup, ils sont majoritaires. C'est difficile à dire. J'essaye de ne pas trop faire de faux espoirs, parce que ce serait vraiment très 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 dur pour moi, je pense, si c'était refusé. Je pense qu'on peut être surpris. De la même façon que j'y croyais pas quand ça a été voté la première fois à l'Assemblée nationale, ça a été vraiment un coup de chance et je sais qu'il y a pas mal de députés qui se sont fait taper sur les doigts. c'était pas ça qu'on voulait que vous votiez. Donc peut-être qu'ils seront encore de nouveau de notre côté et que ça se passera bien.
Je voulais savoir un petit peu, vous, si c'est votre première expérience d'engagement ou si déjà, plus tôt dans votre vie, vous vous êtes engagé sur des causes similaires ou sur d'autres, ou même pour revenir à votre enfance, quels ont été les premiers motifs d'indignation si vous étiez des enfants déjà indignés?
Disons que je suis quelqu'un qui s'indigne beaucoup. Et peut-être par acquisition aussi précoce du langage, je suis quelqu'un qui aime verbaliser ses sentiments d'injustice. Et pour ma part, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à quelle pouvait être l'indignation qui serait corrélée à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui chez Objectif Autonomie. Et alors ça va peut-être être un peu sorti de nulle part. Mais mon premier sentiment d'injustice, je l'ai vécu chez mon père, la première fois que j'ai été frappée par ma belle-mère. J'avais 12-13 ans. Ce jour-là, j'ai découvert ce qu'était la violence et la répression, mais aussi ce qu'était la liberté et le droit. Mon indignation aura donc d'abord été portée sur la chose privée et non pas sur la chose publique. Il faut dire, quand on est enfant, notre seule société, c'est l'école et la famille. Et pour ma part, les questions d'organisation, de droit et de liberté se sont d'abord posées au sein même de ceux qui me gouvernaient, autrement dit mes parents. Et pendant toutes ces années de maltraitance, avant que je ne devienne indépendante, donc, je me concentrais que sur ces mécanismes de domination et j'essayais de les comprendre, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas forcément à même de comprendre ce qui nous arrive. Et c'est seulement vers mes 23 ans, âge où j'ai été diagnostiquée autiste et où je quitte définitivement les études, qui est aussi un lieu qui peut enfermer et empêcher aussi la réflexion, en tout cas pour ma part, que j'ai découvert la chose publique. Auparavant, je ne faisais que subir les règles sociales en espérant réussir à m'y conformer dans le but de survivre. Et c'est à ce diagnostic d'autisme, et d'ailleurs aujourd'hui même, à mes 26 ans, ce matin même, où je reçois le diagnostic du trouble du spectre de l'hypermobilité, donc le HSD, qui possiblement se déclinera en SED, syndrome Ehlers dans l'os, avec hyperimmobilité, on verra bien. C'est à partir du diagnostic d'autisme que j'ai pu donc rencontrer d'abord mes pairs sur les réseaux sociaux et découvrir ma condition. Et ce sera dans le même temps une prise de conscience de mes intérêts spécifiques et une assomption de leur caractère envahissant que je vais découvrir le féminisme à travers l'excellent podcast de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table, mais aussi de l'esprit critique avec les cours tout d'abord filmés de Richard Monvoisin, mais aussi l'excellent podcast d'Elisabeth Fétit, Métachoc, que je vais construire ma pensée qui va devenir militante, puisque ça va être forcément une pensée politique. Et c'est dans cette mouvance que je vais donc découvrir Twitter, m'y inscrire, lire et à un moment donné m'exprimer par moi-même. Et donc à travers les différentes communautés que je vais découvrir au sein de Twitter, je vais découvrir mes propres identités, mes propres valeurs, et jusqu'à former une timeline, une TL, axée surtout sur la lutte anti-validiste, un petit peu malgré moi, mais du fait aussi de ma condition. Et c'est comme ça qu'avec la mobilisation de décembre 2020, je suis tombée les deux pieds dedans dans Objectif Autonomie dès sa création, et que je ne lâche plus depuis.
Moi, j'ai un vécu un peu similaire à celui d'Ariana, c'est que je pense que mon enfance a été assez angoissée. Et en fait, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui me définissent aujourd'hui, comme le fait d'être autiste, le fait d'être trans, non-binaire, asexuel. C'est des choses qui n'existaient pas, qui étaient mal considérées, dans le sens pas bien défini, ou juste le mot ne m'était jamais parvenu en fait. Et du coup, je voyais le monde soit comme si tout le monde faisait semblant de se conformer comme je le faisais moi, soit comme si vraiment j'étais l'être le plus étrange qui soit. Et ça a été assez difficile. Donc quand j'ai commencé à questionner mon identité, ça a commencé par l'autisme. Je suis tombé sur les groupes Facebook autistes, qui n'étaient pas du tout politisés en vrai, qui consistaient surtout en des témoignages. Ça m'a fait du bien sur le coup, mais c'était peut-être pas assez en profondeur sur mon ressenti en fait. La sensation vraiment qu'il y avait un gros manque de représentation et de discussion sur ce genre de sujet. Encore aujourd'hui, même si je suis dans un milieu qui est très transéhandi, dès que j'en sors, en fait, j'ai l'impression de devoir toujours donner des définitions de qui je suis aux gens que je rencontre, en sachant pertinemment que on me considère comme un peu fantasque, comme si j'essayais d'être original, alors que c'était plutôt des trucs libérateurs pour moi et qui étaient là depuis toujours, mais juste c'était pas accessible pour moi dans ce sens-là. Donc quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai tout de suite essayé de compenser la représentation entre guillemets. Moi à la base je dessine, donc j'avais pris le parti d'essayer de m'expliquer aux gens mais par le dessin. Et petit à petit, en prenant conscience de l'existence des communautés très politisées, en fait, du handicap, de la transidentité, j'avais surtout envie de parler à des personnes qui me ressemblent. Et si les personnes extérieures à ça ont envie de s'y intéresser, bah alors très bien, qu'elles rentrent, qu'elles viennent nous voir. Mais du coup, moi, mon militantisme était vraiment beaucoup plus porté sur cette idée-là. Et le côté action, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire avec Objectif Autonomie. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une possibilité de faire quelque chose concret, en fait, dans le militantisme. Je pense que je me suis rarement senti aussi utile qu'en ce moment. Et ça doit sûrement être lié à mon handicap aussi, le fait de ne pas travailler, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression que je peux contrer aussi dans le militantisme. Me dire, je peux rendre service à toutes les personnes qui me ressemblent en fait. Il y a très peu d'autres personnes qui semblent s'intéresser à ce sujet. Et... je vais essayer de faire en sorte d'intéresser les gens à ce sujet-là par le dessin, et j'ai milité dans ce cadre-là. Et si ça marche, bah c'est super.
Donc je suis aussi autiste et j'avais pas compris la question. et la première indignation, moi j'étais partie sur le handicap. Et donc du coup j'ai pas forcément vraiment d'exemple dans mon enfance, parce que j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Mais je sais que ça... La politique a toujours fait partie de ma vie. J'ai une famille dans laquelle on débat beaucoup. J'ai certaines personnes de ma famille qui sont plutôt très militantes. Donc j'ai été très jeune, on m'a demandé mon avis. On m'a, voilà, très jeune, j'ai pu exprimer des opinions qui ont beaucoup évolué, mais qui, voilà, qui existaient, notamment au niveau du féminisme. Et en fait, je pense que... il y a eu plusieurs étapes de déclic au niveau du handicap. J'ai parlé tout à l'heure de ma scolarité, Et donc ça a été un premier déclic. Alors au début, j'avais pas forcément le mot validisme, j'avais pas forcément le mot handicap, mais quand j'ai pris conscience que j'étais dans une errance de diagnostic, que j'allais pas guérir et que j'étais handicapée, ça a été un premier déclic. Et en fait, l'antivalidisme m'a permis un peu de trouver ma place, d'arrêter de culpabiliser. Je pense que si je n'avais pas découvert au travers de Twitter l'antivalidisme à ce moment-là, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Et heureusement que j'ai découvert à ce moment-là des militants, des militantes qui ont parlé de choses qui me faisaient me dire que voilà, j'étais légitime. Donc j'ai eu un peu le parcours inverse d'Ariana. J'ai d'abord été diagnostiquée avec un syndrome d'Ehlers dans l'os en 2019 et autiste plus récemment. Et j'ai commencé à la fin du premier confinement l'année dernière une page Instagram que je co-anime qui s'appelle Mille et une nuits du matrimoine et qui m'a poussée à m'engager présenter des œuvres. L'idée c'est de présenter des œuvres de femmes ou de personnes issues de minorités de genre, mais voilà, on a fait un challenge sur le handicap, on parle pas mal d'intersectionnalité, etc. Et le fait de pouvoir parler comme ça à travers mes lectures de sujets liés au handicap, ça m'a permis de me sentir plus légitime. Parce que voilà, de me dire, voilà, quand on parle d'un livre, entre guillemets, c'est plus facile de s'exprimer parce que c'est des choses qui ont peut-être été dites avant nous et que voilà, on a moins la question de se poser, voilà, je suis récente dans ce milieu-là, quelle est ma place et tout ça. Donc j'ai eu d'autres expériences d'engagement avant ça. J'étais pas mal engagée notamment dans l'anticarcéralisme et en fait il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la lutte pour l'autonomie des personnes handicapées et dans l'antivalidisme, dans l'antipsychophobie, etc. C'est des choses qui sont très cohérentes finalement parce que l'enfermement c'est une question qui nous concerne et du coup... Du coup, Objectif Autonomie, c'est pas ma première expérience militante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première expérience militante dans un milieu uniquement handi. Et c'est très riche. Et c'est vraiment très agréable. Et je l'ai dit et je le redis, mais vraiment, militer avec des personnes handi, c'est bien. Niveau de respect de soi et tout ça, ça m'a appris et apporté beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a, vous me direz Citron et Ariana si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a tous les trois parlé de diagnostic dans le parcours de légitimité et de militantisme. Et voilà, bon, c'est un peu triste à dire, mais voilà, pour moi le diagnostic officiel entre guillemets m'a vraiment permis d'avoir la légitimité pour m'exprimer sur le handicap, sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, sur l'autisme. Et c'est un peu triste parce que le diagnostic, c'est un privilège. Et voilà, j'aimerais que... Si je fais ce que je fais, c'est aussi, en fait, pour que les personnes qui ne sont pas dans une position comme la mienne, où elles ont accès à un diagnostic, où elles ont accès à une considération, à des aides, etc., puissent, en fait, s'exprimer sans qu'on remette en question leurs paroles et... Parce que la parole des personnes concernées, elle est importante. Et elle est importante aussi même quand il n'y a pas un papier médical qui dit « Vous êtes certifié autiste, vous êtes certifié tel handicap, c'est votre diplôme de militantisme, allez-y, quoi. »
Tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve d'autant plus cocasse qu'aujourd'hui, on diagnostique mon genre, entre guillemets. Quand je cherche à faire des transitions médicales, on me donne un petit papier qui confirme que je me trompe pas. Et maintenant, c'est un peu comme ça que je vois mon diagnostic d'autisme. C'est assez ridicule, quelque part. Enfin, c'est peut-être un peu poussé de faire la comparaison, mais il y a clairement un côté contrôle aussi, je pense, de la part des personnes valides, de dire « oui, toi, tu fais semblant, toi, t'es certifié, toi, t'es... » Bon, il y a peut-être trop d'importance accordée à ça, effectivement.
Toute la procédure de MDPH, c'est ça, c'est du contrôle. C'est du vérifier que vous êtes bien handicapé, c'est un dossier qui est très long, où il faut faire un projet de vie, voilà, il faut justifier de son existence, et voilà, c'est vraiment du contrôle de dire la MDPH, en gros, ce qu'elle fait, c'est ouais, toi t'es handicapé, toi t'es pas handicapé, toi t'es pas assez handicapé, toi t'es handicapé à tel pourcentage, donc t'as le droit à telle aide. Ouais.
C'est ça, c'est... j'ai des amis qui ont vraiment beaucoup plus de difficultés que moi, c'est-à-dire que c'est pas juste... incapacité à avoir des revenus, c'est aussi que s'occuper d'elles, de leur santé mentale, c'est difficile. Et elles n'ont pas de diagnostic, du coup, elles restent au RSA, et elles vont probablement rester au RSA toute leur vie. Parce que, bah, du coup, bah, elles n'ont pas les moyens pour payer un diagnostic non plus, et puis c'est le serpent qui se mord la queue.
Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que là, on a parlé d'autisme et du syndrome d'Ehlers dans l'os, ou de l'hypermobilité, enfin, tous les syndromes liés, voilà. C'est des diagnostics qui sont très récents et du coup l'accès à nos droits il existe parce que voilà, ces diagnostics là ont été créés, mais les réalités qui sont derrière, les difficultés qui sont derrière, elles sont pas apparues au moment où les diagnostics ont été créés, et du coup voilà, il y a quelque chose d'assez artificiel à donner comme ça un passeport de légitimité avec un diagnostic, alors que on sait très bien que les diagnostics, il y a quelque chose qui fluctue, que la médecine ça évolue, et que ce qu'on considère comme étant faisant partie de la psychiatrie, ça évolue aussi. C'est très artificiel, et en même temps, quand on n'a pas ces outils-là, on est très, 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 d'autant plus handicapé, j'ai envie de dire, que quand on a le certificat de handicap.
Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les trois, pour votre expertise sur la question. Ça fait 1h16 qu'on parle, donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière. Mais vraiment, merci, je pense que c'est des paroles qui sont très importantes à entendre et à diffuser. Bien évidemment, on mettra dans les notes du podcast tout ce dont on a parlé, les liens pour la pétition, pour vous filer un coup de main, etc. Donc voilà. Merci encore.
Merci à
merci.
Toi.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.